Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Comme le remarque justement Éric Pigani dans son livre Jardin philosophe, un jardin est bien plus qu'un métier, une occupation ou un loisir, c'est peut-être avant tout une aventure spirituelle. Le jardin invite à la méditation, provoque sérénité et plénitude, un profond sentiment océanique. Au IIIe siècle déjà, le poète chinois Yi Kang écrivait « Quel plaisir de se promener dans le jardin, je fais le tour de l'infini ». Et quelles que soient les civilisations, de Sumer à l'Ancien Testament, en passant par la Grèce antique ou la Chine ancienne, le jardin est célébré comme le souvenir d'un paradis perdu, ou bien comme l'image d'un monde idéal. Souvenez-vous du jardin d'Éden ou du jardin des Hespérides. Je vous propose d'explorer tous ces jardins bien réels et qui nous font du bien. Jardin potager, anglais à la française, jardin zen japonais, jardins ouvriers, des lieux qui permettent de nous connecter, de nous reconnecter à la nature, et bien plus. Pour nous guider, la philosophe Martine Lafont qui publie « Cultiver son petit jardin intérieur » et la journaliste de Psychologie Magazine, Christina Pelledouel, mes complices aujourd'hui, Éric Libio de l'Express et Guillemette Audicino. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rébéi.
Bienvenue à nos invités. Bonjour Martine Lafont.
Bonjour.
Vous êtes docteur en philosophie et vous publiez chez Flammarion « Cultiver son petit jardin intérieur, ces jardins qui font du bien ». Bonjour Christina Pelledouel.
Bonjour Ali.
Vous êtes journaliste à Psychologie Magazine et merci pour le bouquet de jacinthe et de lilas que vous m'avez apporté, qui provient de votre jardin.
Exactement, jacinthe sauvage.
Merci beaucoup.
Je précise.
Martine Lafont, pour vous, les jardins sont à eux seuls des petits condensés d'univers.
Oui, oui, c'est une idée que presque toutes les cultures partagent, et plus particulièrement le Moyen-Âge, puisque l'homme était un petit cosmos en miniature, donc il y avait toujours ces liens entre la nature, les différents éléments, et surtout ce qui permettait une correspondance intérieure aussi très riche, puisque la nature était respectée comme quelque chose de divin. C'était le produit du créateur, c'était quelque chose donc qu'on ne regardait pas seulement, mais qui était là pour être admiré et pour nous donner cette richesse intérieure et spirituelle. D'où les jardins des abbayes médiévales, d'où tous ces jardins zen qui étaient porteurs d'une spiritualité.
Contempler un jardin, c'est cultiver son intériorité. Et cultiver son intériorité, c'est un peu comme cultiver son jardin.
Oui, parce que le jardin permet ce passage subtil entre l'intérieur et l'extérieur. Et puis, il permet, avec toute une série de mots, de vocabulaire qu'on emploie, de se ressourcer, de se reconnecter, de se relier, etc. Et c'est ça qui donne, j'allais dire, sa force au jardin, parce qu'il est traversé par une énergie. Et cette énergie-là, on peut la capter en méditant, en marchant. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, dans les différentes conceptions des jardins. Qui ont été créés par les cultures, les différentes cultures.
Et pour aller dans votre sens, dans son livre, Jardin philosophe, Éric Pagani nous dit que le jardin est un espace intermédiaire entre le matériel et l'immatériel, le profane et le sacré, le visible et l'invisible, votre vie extérieure et votre vie intérieure.
Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que effectivement, toutes les cultures du monde l'ont partagé, que ce soit en Afrique, que ce soit en Chine, au Japon. Il y a eu cette dimension spirituelle du jardin.
Tiens, ça vient d'où ce mot jardin ?
Malgré les courbatures.
Ça vient d'où le mot jardin ?
Alors justement, les linguistes font des recherches très, très diverses et variées. Bon, il y a hortus, évidemment, que tout le monde connaît. Il y a le paradis persan, paradisia. Et il y a aussi gardo, gorto, etc. Mais tous s'accordent dans ces recherches linguistiques savantes à dire que c'est un espace délimité. C'est un espace pris sur la nature sauvage et que l'on, par exemple, le paradis perse, c'était un espace délimité pour la chasse royale. Donc, les murs, c'était ceint de murs pour que on puisse chasser plus facilement. Donc, cet espace qui est pris, conquis quelque part sur la nature sauvage, on se l'approprie et on essaye justement avec les mythologies dont vous avez parlé, d'un Éden et d'un paradis, de recréer quelque chose qui va vous faire du bien.
Alors, vous parliez de paradis, et pour bien des jardiniers, leur lopin de terre, leur jardin, c'est un petit coin de paradis, et nos jardins préférés sont nos petits coins de paradis. Je pense par exemple au jardin de la Folie Rennerie à Toulouse, qui est un petit coin de paradis dans un quartier très bétonné.
Alors oui, c'est ça qui est intéressant dans cette notion de paradis, c'est qu'on a pensé qu'il y avait un ailleurs où l'homme n'avait rien saccagé, quoi. On va dire ça comme ça. Et du coup, recréer une harmonie, quelque chose où tout pousse, où effectivement il y a une espèce de beauté naturelle. C'est une ambition, c'est un désir finalement, ce désir de beauté finalement que chacun porte en soi. Donc c'est vrai que les jardins qu'on voit maintenant fleurir au bas des HLM, des jardins partagés, les jardins aussi qu'on retrouve dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, pour faire du bien, c'est ça, c'est redonner à chacun ce contact, ce lien avec la nature et avoir l'impression d'y participer, d'être co-créateur.
C'est un petit coin de paradis, votre jardin, Christina Pelédoel.
C'est même un grand coin de paradis.
Oui, je l'ai visité.
Pas petit,
un très grand coin de paradis.
Un grand coin de paradis. Mais ce que j'aime aussi, ce qu'on retrouve dans les jardins, je crois, c'est la surprise. Et je trouve qu'il y a des choses toujours surprenantes dans les jardins. On essaye de maîtriser, plus ou moins, hein, selon qu'on est un jardinier très amariné ou pas. Mais on a toujours des surprises. Il y a des choses qui surgissent. On ne sait pas pourquoi ni d'où. Ça, c'est quand même... Ça, c'est un don... On peut le dire, un don du ciel. Je pense qu'il y a quelque chose de ça.
De l'inattendu. Hein,
du surgissement et du désordre aussi. Parce qu'un jardin... Même si on essaye de l'ordonner comme des fous, on n'y arrive jamais complètement. Ça, c'est un bon rappel, justement. Bon rappel au désordre de la nature.
À la profusion, à l'exubérance. C'est vrai, l'inattendu.
L'inattendu.
Le surgissement de l'inattendu ou l'irruption de quelque chose qu'on n'avait pas vu.
Des fleurs qui arrivent comme ça, alors qu'on ne s'y attendait pas. Je me souviens d'avoir vu apparaître dans mon jardin des petites fleurs que je n'avais jamais vues. Elles sont apparues une année. Elles étaient ravissantes. Je ne sais pas d'où elles venaient. Et elles ont disparu complètement l'année suivante. Je n'y ai pas touché. Et elles étaient là. Elles sont reparties.
Guillemette Audicino.
Est-ce que le jardin aussi, c'est pas un parfum, enfin des centaines de parfums d'enfance? Quand on a connu un jardin, quand on était enfant, tout à l'heure Laetitia parlait de sa maman qui jardine, et moi aussi j'ai une maman qui jardinait, et est-ce qu'on n'a pas toujours envie de retrouver ça, c'est-à-dire de recréer ce jardin-là, de recréer ces senteurs, de retrouver ces arbres fruitiers-là, ces fleurs-là, les jacinthes, là ça me fait penser au jardin de mon enfance. Il y a des mots comme ça, même des mots qui deviennent des mots importants. Seringa, lilas, enfin... C'est vraiment quelque chose comme une mélodie d'enfance, en fait.
Oui, oui, c'est tous les souvenirs qui affleurent. Parce que moi, c'était ma grand-mère qui jardinait et qui avait toujours des trouvailles qu'elle prenait sur le marché et puis qui prenait ou qui prenait pas. Et c'est ce que je raconte dans le livre, c'était un pavot. Un unique pavot, on ne sait pas pourquoi, il y en avait qu'un. Et pour moi, c'était une espèce d'éblouissement. C'était le soleil du jardin, dans un jardin un peu en désordre aussi. Mais ça avait quelque chose d'attachant. Et aussi, peut-être, le premier sentiment de la fragilité et de l'éphémère.
C'est ça.
Parce que quand vous dites ça prend ou ça prend pas, c'est drôle, parce que ça nous rend aussi assez humbles. Parce qu'il y a des fleurs qui apparaissent alors qu'on les attendait pas, mais aussi des fleurs qu'on a plantées et on voulait absolument qu'elles continuent, et en fait elles viennent pas. Hein.
Non.
On n'arrive pas à les faire venir, ces satanées fleurs.
Oui, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que la graine, même si elle est enfouie, si elle est sur un terrain qui ne lui convient pas, elle ne poussera pas. Donc toutes les métaphores, effectivement, de l'enfouissement, de la maturation et puis de la fructification.
Et de l'attente.
Oui, de l'attente, hein, de la patience.
Donc, la patience.
Donc, oui. Les philosophes se font l'écho.
La patience, d'ailleurs, ou l'impatience, puisque des fleurs s'appellent les impatiences. Donc il y a aussi quelque chose, oui, en effet, de cet ordre-là, de l'ordre de l'attente, qui est, pour les jardiniers, à la fois agaçante, parce qu'on voudrait que ça aille plus vite, et en même temps absolument merveilleuse. Et donc il y a quelque chose qui ouvre, en effet, à la spiritualité, même la spiritualité la plus laïque qui soit, mais devant un émerveillement. Je pense que le mot d'émerveillement est très important. Je pense à une auteure que nous aimons bien, Belinda Cannon, qui en parle très bien dans un de ses livres et qui parle en effet de cette notion d'émerveillement devant le retour permanent. Parce qu'il y a cette
idée de
cycle, le retour permanent de la nature qui se réveille, etc. Et l'émerveillement devant le foisonnement qui revient toujours. Il y a quelque chose de, en effet, de l'attente et en même temps de la permanence. Et un poète qui, je ne sais plus lequel, qui a eu cette expression que je trouve très belle, qui parle de l'éphémère plénitude du jardin.
Oui,
donc ce sont deux mots contradictoires.
C'est un oxymore.
Un oxymore. Et mais c'est exactement ça. On attend. Oui. Ça passe très très vite au moment où c'est là. C'est sublime, mais il faut en profiter tout de suite.
Et c'est Victor Hugo qui dit ça aussi, c'est un moment de coïncidence avec le monde, quelque chose qui vous est dévoilé d'invisible dans cet émerveillement. Et c'est vrai que l'éphémère à ce moment-là n'est pas quelque chose de négatif ou quelque chose qui serait une mort, mais quelque chose de plein.
De plein, oui, c'est l'éphémère plénitude, oui, c'est ça, c'est exactement ça.
Martine Lafont, comment expliquez-vous que de nombreuses croyances et mythologies mettent en scène des jardins merveilleux, de l'épopée de Gilgamesh à la Bible, en passant par la mythologie grecque ?
Alors, je pense, en ce qui concerne Gilgamesh, que lui, il vient de perdre son ami Andiku. Il vient de se confronter pour la première fois à la mort. Qu'est-ce que c'était que la mort ? Et non seulement il y a la perte, le deuil, et il y a aussi, est-ce que moi-même je vais mourir ? Donc il part à la recherche de la plante d'immortalité. Or, il arrive dans ce jardin merveilleux, souvent comme dans les mythologies, il y a énormément de joyaux, ça brille, c'est d'or, etc. Et là, à ce moment-là, il comprend qu'effectivement, après cette quête solitaire, douloureuse, etc., il existe un endroit, évidemment à l'intérieur de lui, c'est ce que symbolise le jardin, où il va pouvoir trouver un apaisement. Et je pense, alors dans la mythologie grecque, c'est pas tout à fait le cas, mais en même temps, c'est quelque chose de précieux qui est gardé. Hera, avec ses pommes d'or et le jardin des Hespérides, on garde quelque chose. Donc c'est aussi préserver son intériorité. Si on extrapole et si on donne une dimension plus psychologique ou plus philosophique. Et donc tous ces jardins dont on parlait tout à l'heure, tous ces paradis perdu, c'est et qu'on cherche à retrouver, ou plutôt peut-être que les paradis sont en avant de nous, c'est-à-dire qu'ils nous obligent à cheminer. Tous ces jardins-là, effectivement, nous font toucher du doigt notre intériorité.
Notre intériorité, vous l'avez dit, vous avez parlé de l'idée de la mort, Gilgamesh, qui est liée au jardin, puisque dans les cycles, il y a bien sûr l'automne, puis la descente, si j'ose dire, de l'hiver, ce cycle de mort, mais qui est absolument indispensable pour que ça puisse renaître. Donc on trouve dans les grandes traditions spirituelles cette idée de la renaissance qui est très liée au jardin, ce qui est aussi une porte à une méditation sur notre propre passage éphémère sur Terre, et en même temps un espoir.
L'espérance.
On reviendrait. Ouais. Si je peux dire juste un mot, il y a quelque chose de très beau. Elsa Triolet et Louis Aragon ont demandé à être enterrés dans leur jardin et ils sont enterrés sous les arbres. Donc il y a ça aussi dans le jardin.
Bonjour Estelle, bienvenue.
Bonjour à tous.
Vous avez, Estelle, la chance extraordinaire de posséder un jardin depuis 5 ans. J'aimerais que vous nous décriviez ce jardin situé, je crois savoir, dans la vallée de Chevreuse.
Oui, tout à fait.
Racontez-nous.
C'est un jardin qui fait à peu près 1000 mètres carrés. Je suis arrivée, c'était une grande forêt vierge. C'est un peu ce qui m'a plu d'ailleurs. Il était rempli d'arbres fruitiers, de haies qui débordaient de kiwis et autres. Donc avec mon mari, nous avons entrepris de faire un petit nettoyage quand même. Et puis petit à petit, nous avons installé un potager, un poulailler, des massifs avec des centaines de rosiers, parce que je me suis pris de passion pour les rosiers aussi. Et puis voilà, ça fait 5 ans et il est toujours en mouvance et je pense que je n'atteindrai jamais la perfection.
Alors Estelle, avant de posséder un jardin, vous viviez dans un appartement et c'était au fil des années devenu un besoin viscéral de créer un jardin.
Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 6 ans, j'ai fait un burn-out qui s'est transformé en agoraphobie. Et du coup, j'ai pris du recul, je me suis rendu compte que j'avais besoin de ralentir, j'avais besoin de prendre du temps pour moi, j'avais besoin de retrouver un contact avec la nature, j'avais envie d'animaux, de poules, enfin, j'avais envie de retrouver un peu la quiétude qu'il y avait dans le jardin de ma grand-mère. Mmh. Et effectivement, ça m'a beaucoup apporté, je me suis beaucoup apaisée, je me suis amenée à me dépasser aussi parce que cette agoraphobie me coupait du monde. Donc, petit à petit, j'ai créé un blog pour rencontrer des jardiniers comme moi.
Ça s'appelle le Jardin de Nel, hein. Le Jardin de Nel.
Oui, c'est voilà. Ça.
N-E-2-L.
N-E-2-L, oui. Ce sont les premières lettres de nos 4 prénoms de ma famille.
Alors, vous avez un jardin, Estelle, mais vous ressentez le besoin de visiter d'autres jardins.
Oui, ah oui. Déjà, les jardins des copines que j'ai rencontrés, donc j'ai réussi à passer le pas, à rencontrer d'autres jardinières, et puis de visiter les grands jardins, les jardins remarquables qu'il y a partout en France, et c'est une source d'inspiration sans fin.
Quel est le jardin qui vous inspire le plus, Estelle? Le jardin le plus merveilleux que vous ayez visité?
Je ne peux pas dire qu'il y ait un jardin qui soit le plus merveilleux, parce que je pense que chacun a eu une idée qui m'a plu, chacun a eu une ambiance qui m'a plu. Il y a des jardins, par exemple le jardin japonais, c'est pas forcément mon style, c'est parce que moi je recherche chez moi. Et pour finir, quand j'en ai visité, j'ai trouvé ça tellement, enfin c'était telle quiétude que c'était très agréable.
Guillemette Audicino.
Oui, je voulais vous demander, vu que vous avez l'air d'adorer les roses et Bagatelle, le jardin de Bagatelle, est-ce que vous aimez ou est-ce que le vôtre est plus beau?
Non, mais
quelle question, Guillemette,
c'est vite. Quelque chose de remarquable.
C'est évidemment le jardin d'Estelle qui est le plus beau. Petite réaction peut-être, Christine Appelé-Douel de Psychologie Magazine.
Mais le retour dans le jardin, le retour, la reconnexion avec la nature, c'est un besoin absolument essentiel que nous avons tous. Donc on aura l'occasion d'en reparler, mais ça lui a permis en effet de calmer ses angoisses.
Martine Lafont.
Oui, moi je pense que justement se reconnecter à la nature, c'est essentiel parce que nous sommes la nature et l'oublier, c'est effectivement se couper de ses propres racines. Donc ce besoin de jardin, c'est à la fois un désir de quiétude mais un désir de beauté aussi. Et c'est ça qui est important, c'est de trouver sa place dans le jardin et dans la nature.
Merci beaucoup Estelle d'avoir surmonté votre timidité pour témoigner. On s'intéresse aujourd'hui à ces jardins qui nous font du bien. Alexia Rivière et Alexia Lacour m'ont aidé à préparer cette émission avec Nicolas Beauve et c'est réalisé par David Leprince. Les Cardigans interprétaient Love Fool.
Je veux manger les légumes de mon jardin.
Grand bien vous fasse.
Recueillir l'huile de mes oliviers. Gober les œufs frais de mes poules. M'enivrer du vin de ma vigne.
Sur France Inter.
On s'intéresse ce matin aux bienfaits des jardins avec la philosophe Martine Lafont et la journaliste Christina Pelédouel. Maud nous dit, on aime jardiner le potager pour trois raisons. Le plaisir d'être en extérieur, de se vider la tête au grand air, le bonheur et la récompense de récolter ses fruits et légumes et la joie de transmettre à ses enfants, encore petits, ces petites choses simples qui nous rendent fiers. Et puis Yolène nous dit, pour ma part, le jardinage m'a été prescrit, entre guillemets, pour m'aider à me ressourcer suite à un burn-out et à une dépression. Le contact avec la nature, la reconnexion avec la nature, avec l'essentiel, m'a permis de gérer mon stress. Je n'ai pas un jardin taillé parfaitement. J'aime aussi laisser les plantes faire ce qu'elles veulent, m'étonner et m'émerveiller. Christina Pelédouel.
Oh oui, ça c'est une qualité indispensable hein, quand on jardine. Je pense que laisser les choses survenir, c'est aussi un apprentissage. Un apprentissage, on le disait tout à l'heure, de la surprise et de laisser de la place à l'inattendu, enfin laisser les choses survenir, laisser les choses survenir. Et on a toujours tellement tendance à vouloir que les choses arrivent. Et les jardiniers disent souvent, c'est pas parce qu'on va tirer dessus que ça va pousser plus vite. Et c'est vrai, on est obligé de se caler sur le rythme naturel, même si on plante des choses déjà poussées, ouais, mais on est obligé, on n'a pas le choix.
Martine Lafont.
Oui, c'est vrai. Et puis, ce qui est amusant, c'est que vous regardez les paquets de graines. Vous avez janvier, février, quand est-ce que vous devez faire vos semis, etc. Au jardin, il y a ce qu'on appelle le temps opportun. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour tout. Hein. C'est ce que dit aussi reprendre les grandes traditions. C'est que, effectivement, il y a un temps pour planter, il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter.
C'est l'Ecclésiaste. Et, hein.
Exactement.
Et le lieu opportun.
Et le lieu opportun.
L'exposition, est-ce qu'il faut le mettre contre un mur, à l'ombre, au soleil, à moitié. Ça, alors là, quand sur le paquet, il y a marqué le soleil à moitié, moitié soleil, moitié ombre, c'est l'angoisse complète,
oui,
ça.
C'est le doute et l'interrogation.
Oui. Allez, je vous propose d'écouter l'anthropologue Jean-Didier Urbain.
Je pense que c'est surtout au niveau de l'imaginaire que ça se passe et que le jardin, c'est quelque chose qui rassure. Parce que c'est un espace clos, c'est un espace qui est soustrait aux turbulences sociales, c'est un espace où on est maître du monde, en fait. Hein. D'ailleurs, le jardin, ne pas oublier quand même que même historiquement, le jardin, il a été inventé contre la nature. La nature, c'est ce qui échappe à l'homme, le jardin, c'est de la nature assujettie par l'homme. Et qu'il y a toujours ça dans le rêve du jardinier, dans le rêve du jardin, c'est d'abord avoir un monde à soi, pour soi, et soustrait aux influences extérieures. Je crois que le désir de jardin, c'est aussi une réponse à une France qui se découvre urbanisée comme tous les autres pays, avec 90% de sa population en ville, et que cette population, elle se cherche un contrepoint hein, à la promiscuité urbaine, au collectif urbain, dans l'individuel, dans le repli, dans le jardin secret, dans l'autoproduction, justement, où l'individu se retrouve, enfin, maître, en quelque sorte, de sa vie.
Jean-Didier Urbain sur France Inter en 2003, Martine Lafont.
Ah oui, maître de sa vie, j'adhère complètement parce que c'est vrai que justement, c'est ça l'intériorité, c'est donner un sens à ses actes et dire qu'est-ce que je fais de tout ça, quoi. Et le jardin, c'est effectivement se réapproprier cet espace intérieur. Et c'est pas seulement, c'est aussi, j'allais dire, se reconnecter à ces différents sens, c'est-à-dire qu'on a oublié, on parlait tout à l'heure de la dureté du sol, de la terre, de la poussière, de ce qu'on n'arrive pas à faire, mais c'est aussi se reconnecter au parfum, effectivement au contact, et ça, on l'a perdu.
Oui, j'ai pratiquement encore de la terre sous les ongles, pour ma part. J'ai fini par gratter avec mes ongles la terre. Parce qu'il y a deux jours, j'ai voulu, en fait, recréer mon enfance. On m'avait offert des brins de muguet, et moi, dans mon enfance, j'allais chercher des brins de muguet dans mon jardin. J'ai donc décidé, un voisin adorable, merci Fred, m'a donné un pack entier, enfin, incroyable de muguet qu'il avait dans son propre jardin, que j'ai voulu replanter dans le mien. Donc je suis arrivée en sifflotant avec ma pelle. Mais c'est impossible de creuser. Dans les westerns, les types qui ensevelissent des cadavres comme si de rien n'était, comme qui badinent. Mais c'est super dur. Donc j'ai fini à genoux, grattant la terre comme une perdue. Mais tout ça parce que je me suis dit que l'année prochaine, cette beauté qu'on m'avait offerte, j'irai moi-même à l'accueillir dans mon jardin. Je pourrais dire que la beauté, elle est... pour le coup. Elle est intérieure. La beauté sera intérieure. Enfin, je croise les doigts, j'espère que j'ai bien planté le muguet.
Martine Lafont.
Oui, avec le muguet, ça va vous porter bonheur. Donc, vous avez raison de croiser les doigts en plus. Et c'est vrai que l'effort qu'on a fait pour que les choses adviennent, il est toujours, une espérance.
Alors, le jardin invite à la méditation. Et Martine Lafont, en sanskrit et en tibétain, l'étymologie du mot méditer signifie également
cultiver. Oui, j'ai appris ça de Mathieu Ricard, qui explique ça. Et c'est vraiment cette coïncidence du fait que, effectivement, cultiver demande un effort. Donc, il faut, à un moment donné, c'est ce qu'il dit, c'est gérer ses pensées malveillantes. C'est cet effort-là qu'il demande. Se cultiver, c'est aussi ça. C'est gérer ses propres pensées, ses propres émotions. Et puis, lui, puisqu'il parle d'altérité, hein, vous parliez d'échange, votre voisin vous a donné ses plants de muguet. C'est cette altérité-là aussi qui est présente dans le jardin.
Chrysilla Pelledouel, comment méditer dans un jardin? Vous consacrez un papier dans le Psychologie Magazine de ce mois-ci sur les bienfaits du jardin. Comment on médite dans un jardin?
Mais je pense qu'on n'a pas besoin de se poser vraiment la question. Je pense que la méditation, en fait, se coincer dans ce terme de méditation est plus angoissant et paralysant qu'autre chose.
Peut-être.
Ça se fait de manière très naturelle. Quand on est en train de jardiner, on est dans une espèce de but, de moments suspendus où on n'est plus soi-même, on n'est plus qu'un être faisant. Et donc, dans ce moment-là, on est en effet en pleine méditation, ce moment où on est totalement concentré sur ce qu'on fait sans se poser la question et sans se dire « il faut que je sois concentré ». Non, on fait tout simplement.
C'est le fameux état de flow dont parlent certains psychologues.
Oui, dont je n'arriverai jamais à prononcer le nom, mais ce n'est pas grave, tout le monde l'a reconnu. Moi, je parlerai d'une espèce de moment d'épanouissement de l'esprit, une espèce de floraison, pour reprendre un terme jardinier, floraison de l'être. On est en parfaite connexion avec ce qui est en train de se passer, avec la terre, avec les plantes, et on n'a plus besoin de rien d'autre. On est soi, sans aucun, soi-même, sans aucun, sans contrainte, sans rien. Et donc parfaitement, en accord avec soi et avec le reste du monde. Parce qu'il y a ça. Dans le flot, on n'est pas seulement individualisé, on est aussi en connexion avec le reste du monde. Et je crois que le jardin permet ça, cette connexion avec le monde et avec les autres. Enfin,
oui,
quand on est face à des plantes, qui est un jardin qui a été déjà cultivé, on est en connexion avec les jardiniers qui ont précédé et avec ceux qui peut-être nous suivront et grâce auxquels on peut obtenir des fleurs, des arbres fruitiers.
Vous parlez de flow, Chrysilla Pelledouel, le grand spécialiste, s'appelle Mihaly Csikszentmihalyi.
Oui, voilà. Il faut que je fasse des exercices, Christophe André le dit parfaitement, mais moi je n'y arriverai jamais.
Martine Lafont, sur ce que vient de dire Chrysilla
Pelledouel. Oui, c'est vrai qu'il y a cette coïncidence. La méditation, c'est pas seulement une respiration, c'est quand on est au jardin, effectivement, on est présent à soi-même. On est présent aussi au monde. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que le jardin peut être en désordre, il peut être pas du tout comme il faudrait, le mien n'est pas du tout comme il faut, mais c'est ça qui m'intéresse, c'est que quand j'y suis, je suis dans des moments de silence et des moments de solitude remplis de présence. C'est une présence habitée, c'est vraiment... le fait, on en revient toujours à ça, c'est qu'on puisse se reconnecter à ses propres sens, c'est-à-dire écouter,
de les réveiller,
regarder.
De les réveiller, ces sens parfois endormis.
Absolument.
Chrysilla Pelledouel.
Oui, vous parlez des sens, il y a un sens auquel on ne pense pas forcément qui est l'ouïe.
Écoutez.
Quand on est dans le jardin, on n'a absolument pas besoin d'avoir un casque sur les oreilles. Ça serait même une aberration totale. On a au contraire besoin d'être en contact avec les bruits du jardin, le vent, le chant des oiseaux, car Dieu merci, il en reste encore. Tous ces mouvements de la nature qui nous entourent et qui nous permettent justement d'être en harmonie. C'est vraiment une question d'harmonie. Jardiner, c'est un moment d'harmonie, je crois. D'harmonie avec le reste du monde.
Ah oui, complètement. Et c'est vrai que ça paraît un petit peu dérisoire de dire ça, parce qu'effectivement, on n'est pas des paysagistes, on n'est pas des professionnels du jardin, mais c'est ça qui nous intéresse, ça qui nous plaît. C'est ces moments de coïncidence, ces petits moments volés, effectivement, à un monde extérieur bruyant, avec des flots d'informations, à des contraintes. Non, effectivement, il y a des contraintes dans le jardin, mais finalement, c'est celle qu'on aime.
Et si la Pays d'Oël, vous êtes adepte des bains de forêt, les fameux Shinrin Yoku japonais,
que on je peut également. Sans le savoir, d'ailleurs.
Exactement, et on peut également s'immerger dans un jardin comme on prendrait un bain.
Oui, on s'immerge complètement, même sans rien faire. Enfin, je crois qu'il y a deux choses essentielles dans le jardinage, dans le fait, c'est d'une part la vue, et puis tous les sens dont nous avons parlé, hein, la contemplation de la beauté de la nature. On parlait de méditation, mais observer simplement une feuille, ou regarder de près le trajet des fourmis, ou regarder, j'ai fait cette expérience récemment, parce que j'ai un pommier qui pousse sur un mur, et j'ai regardé de près les fleurs de pommier. C'est absolument merveilleux, c'est un monde en soi, c'est extraordinaire, le parfum, le toucher des pétales, etc. Donc il y a ça, la vue, les sens. Et puis il y a l'action. Et le fait de faire procure une satisfaction, une joie intérieure vraiment extraordinaire.
Oui, et ça me fait penser tout à fait à Montaigne qui disait, si la vie n'est qu'un passage, semons des fleurs, c'est-à-dire soyons actifs, voilà, par rapport à nos propres vies, et le fait de faire, même si c'est pas tout à fait comme l'Incatini, le grand jardinier de Louis XIV l'aurait voulu, ce qu'on fait, c'est aussi notre petite empreinte. Et notre petite façon aussi de concevoir cette liberté au jardin.
Et de célébrer, célébrer la beauté, je crois, oui. Je crois que c'est vraiment important.
Et la liberté qu'on donne aux plantes aussi. J'aime beaucoup Gilles Clément qui parle de l'éloge des vagabondes. C'est-à-dire laisser aussi advenir au jardin ce qu'on ne pensait pas. C'est ce qu'on disait tout à l'heure.
La merveilleuse imperfection des jardins.
Alors à propos d'imperfection, ceux qui jardinent savent que c'est une école de l'acceptation.
De l'humilité.
De l'humilité. Le jardin ne répond pas à nos désirs, à nos attentes.
Mais c'est ça qui est bien.
Après, moi, j'aime les jardins rebelles.
Mais c'est ça qui est bien. C'est que ça nous échappe. On essaye en permanence. On court derrière son jardin, toujours. Il n'est jamais à la hauteur de ce qu'on voudrait. En même temps, on est parfois surpris par ce qui surgit, qui est tellement bon. On se dit, tiens, ça a poussé. J'avais totalement oublié, mais c'est d'une beauté extraordinaire. Et voilà, c'est l'imperfection.
L'inachevé aussi.
L'inachevé, l'imperfection, c'est ça qui est tellement magnifique.
Bonjour Hugo Meunier, bienvenue. Bonjour à vous. Vous êtes le président. Merci. Vous êtes le président fondateur de Merci Raymond. C'est quoi Merci Raymond? L'idée, c'est de végétaliser les toits de Paris et de ses environs, c'est ça?
Exactement. L'idée, c'est de s'adresser aux urbains et de les reconnecter à la nature à travers notamment une expérience. On parlait beaucoup de la sensation de nature aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est extrêmement mise de côté en ville, puisqu'on est de plus en plus dans des situations de béton, et des grandes villes type Paris sont des espaces, des villes les moins vertes au monde. Donc nous, Merci Raymond, avec notre action, on essaie de sensibiliser, d'accompagner et de recréer des espaces de végétation et d'îlots de fraîcheur, tout en faisant pousser des légumes. Et évidemment, c'est plutôt anecdotique, mais l'idée, c'est de recréer cette sensation de retrouver le légume.
Vous pouvez nous donner une idée de végétalisation d'un toit parisien?
Oui, alors typiquement, on a fait un projet dans le 11e arrondissement où on fait pousser du houblon, et le houblon, après, est récolté, ramassé par des brasseurs dans le 11e arrondissement, qui l'utilisent pour en faire une pierre locale. Et donc là, on est sur du circuit ultra court.
Quel est le potentiel de végétalisation des toits parisiens et d'autres grandes villes, évidemment, mais à Paris spécifiquement, quel est le potentiel?
Alors aujourd'hui, le potentiel, il est relativement énorme. On a différents types de végétation. Effectivement, il y a les toits, mais on a aussi beaucoup les terrasses, les balcons. Aujourd'hui, une ville comme Paris sont des villes, finalement, qui ont un manque de biodiversité. Certes, il y a des abeilles, mais il y a un manque de plantes mellifères. Et donc, les balcons sont des espaces aussi qui peuvent accueillir beaucoup de fleurs et de plantes mellifères pour soutenir ces abeilles qui ont besoin de fleurs pour butiner. Et après, effectivement, le potentiel, on a certes une architecture qui est de l'ordre des toits haussmanniens, mais il y a encore beaucoup de toits plats, des toits inexploités.
Notamment en banlieue parisienne.
Il y a
en
beaucoup
banlieue parisienne, exactement. Nous, on intervient beaucoup sur des sites comme à la Grande Borne, à Sartrouville ou même à Stain, en Seine-Saint-Denis. Et l'ambition qu'on a, c'est de recréer une reconnexion et se revaloriser son quartier. Aujourd'hui, l'agriculture urbaine bénéficie, on va dire, du vent en poupe, d'une image positive et finalement peut aussi bénéficier à la filière globale de l'agriculture puisqu'elle est assez valorisée, que ce soit dans les médias ou même que ce soit dans l'image de l'agriculteur urbain.
Votre regard, Martine Lafont, sur cette belle initiative de végétaliser les toits de Paris et de la banlieue.
Oui, je trouve ça formidable. Et aussi, j'avais été invitée en Belgique, les hôpitaux qui finalement s'aperçoivent que les malades aussi, ils ont besoin de se reconnecter à la nature et qui cherchent avec des jeunes paysagistes, effectivement, comment on peut s'approprier lorsqu'on est malade ou lorsqu'on a une maladie d'Alzheimer, des espaces qui vont permettre de soulager un petit peu votre isolement et votre douleur.
Merci beaucoup Hugo Meunier d'être intervenu. Chrysilla Pelédouel, vous pouvez peut-être nous rappeler quelques grands bienfaits de la nature sur notre cerveau.
Alors,
sur celui d'Éric Libiot notamment.
Non, je pense que dans le cas d'Éric, c'est fichu.
Les grands bienfaits, Chrysilla.
Alors, les grands bienfaits, on les perçoit hein, de manière instinctive, mais on peut dire qu'il y a la baisse. Simplement d'être en contact avec la nature fait baisser le stress, fait baisser le taux de cortisol. Donc, on voit immédiatement le bienfait. D'ailleurs, il suffit d'aller dans un jardin oui. public, simplement 10 minutes. Beaucoup de gens le sentent et le font spontanément à l'heure du déjeuner. Permet de souffler, de respirer différemment, de se calmer. On sait aussi que le contact avec la nature, vous l'avez dit, permet aux malades d'Alzheimer de retrouver des sensations qui ne sont pas de l'ordre de la mémoire cognitive, mais qui sont d'un autre niveau. Permet de améliorer les états dépressifs, justement par ce contact-là, le fait de marcher, d'être en plein air et de voir la végétation. D'ailleurs, la marche dans la nature, on sait que c'est fortement recommandé dans les cas de dépression et de plus en plus de médecins le font. Et puis alors, le contact avec la nature favorise les fonctions cognitives. Alors en particulier, la curiosité, par exemple, par la sollicitation permanente de ce qu'on observe et de ce qu'on peut voir. Puis l'épanouissement des sens, on l'a dit, et la réduction de la fatigue. Ça, on le sent tous. On va marcher une heure en forêt et
dans les jardins.
On se sent mieux. Dans les jardins. Et on se sent mieux. Voilà, donc les bénéfices physiques et les bénéfices psychologiques très importants.
Bonjour Richard, bienvenue. Vous nous appelez de Clermont-Ferrand.
Oui.
Vous avez une question, un témoignage ?
Un témoignage Voilà, je fais du jardin en tant que professionnel, en chez Campus Service.
Ouais.
Et donc, souvent, chez les gens chez qui je vais travailler, ils ont cette question, c'est comment, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Mais ils me demandent tout ça de façon la règle. Et en fait, je leur dis souvent, justement, qu'il n'y a pas de règle établie, c'est justement qu'il faut qu'ils soient bien dans leur jardin, que ce soit qu'ils se sentent bien, que ce soit un bonheur en quelque sorte. Mmh. Et donc tout à l'heure, il y avait une de vos invitées qui parlait des paysagistes, en disant que voilà, que vous aviez une vue beaucoup plus philosophique et moins pratique. Mais même dans la pratique, il faut que justement on fasse ça, qu'on s'attache plus à cette notion de bonheur, parce que les gens souvent pensent qu'il faut qu'ils aient un jardin qui ressemble aux autres. Mmh. C'est pas comme ça qu'ils seront bien. Mmh.
Merci beaucoup Richard pour votre témoignage ce matin. Laurence nous dit ce matin, notre fils de 4 ans s'est émerveillé de voir par la fenêtre un lys violet foncer, se détacher sur le vert de la pelouse de notre jardin. C'est exactement pour cela que nous ne concevions pas d'acheter une maison sans jardin.
Tellement vrai, mais tellement vrai. L'ouverture des enfants à la beauté via les jardins, c'est merveilleux.
Ah oui, oui, moi je me souviens, j'adore les capucines. Et c'est vrai que ma grand-mère en plantait. La capucine, c'est formidable, ça court partout. C'est vraiment pour les enfants. Il y a des graines à ramasser. Enfin, tout va bien avec
et les
la
odeurs,
capucine.
Hein. Oui. Les odeurs des roses de jardin ou du lilas de jardin, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on trouve dans le commerce. C'est même frappant.
Et on s'intéresse aujourd'hui à ces jardins qui nous font du bien avec la philosophe Martine Lafont et la journaliste Chrysilla Pelédouel.
point rouge dans la nuit, c'est une clope. Je te dis, un point qui danse dans ces collines, on se balade ici, ma main au feu, un ours qui fume, je n'en crois rien, il faut que cela soit quelqu'un ou bien quelqu'un qui suit un sentier, quelqu'un de transi, quelqu'un qui fuit, qui cherche un pays pour vivre, vivant.
Et on vient d'écouter Bertrand Belin, de corps et d'esprit.
Moi, tu sais où je suis, hein? Ouais, je suis sur ma terrasse.
Grand bien vous fasse.
Dans une chaise longue, je me suis fait un petit cocktail. Ah ouais, c'est croisière. T'as pas un bruit, personne peut t'emmerder.
Ali Rébéi.
Bah, Loulou, qu'est-ce que tu fais là? Attends, on a plein de trucs à faire, je t'ai fait toute une liste. Faut nettoyer la terrasse, faut nettoyer le barbecue, faut tailler les rosiers, faut arroser les plantes.
Sur France Inter.
Et on s'intéresse aujourd'hui à ces jardins qui nous font du bien avec la philosophe Martine Lafont et la journaliste Christina Pelledouel. Allez, je vous propose de pénétrer dans le jardin zen japonais d'Éric Borja à Beaumont-Monteux dans la Drôme.
Un endroit magique et méditatif qui appelle tout un chacun à laisser devant la porte son fardeau de soucis et toutes les pollutions qui l'accompagnent.
Nous arrivons ici à la limite de l'espace qui est ouvert sur l'extérieur et du jardin privé. Vous pouvez remarquer que deux pierres se font face à face, séparées par une frontière symbolique au sol, la pierre du visiteur et la pierre de l'autre. Et à partir de là, on rentre dans l'espace à proprement parler privé du jardin et en bifurquant sur la gauche, nous allons découvrir le jardin de méditation.
Il faut bien comprendre les deux fonctions essentielles du jardin zen. C'est d'abord, pour son occupant, une source de contemplation perpétuelle, comme un théâtre naturel où l'environnement a été réduit à la taille d'une simple maquette, de grandeur plus ou moins variable selon les désirs et les moyens de son créateur.
En principe, ce jardin, nous n'y pénétrons que par le regard. Et c'est dans une position statique qu'on le contemple et éventuellement, il peut servir de support à une méditation, mais aussi à une contemplation pure et simple de la nature.
Le visiteur ne le sait pas encore quand il entre ici, mais un jardin zen est une vraie machine à calmer les nerfs.
Le jardin zen japonais d'Éric Borja dans la quotidienne sur France 5. Christine Lapelle-Edouelle, c'est une vraie machine à calmer les nerfs, le jardin zen japonais?
Oh, je ne sais pas si je dirais ça comme ça, mais en tout cas, c'est une entrée et une invitation à la contemplation et au détachement d'une certaine façon du reste du monde, oui, et d'ouverture aussi. L'œil part vers ce qui est proposé par le jardinier zen, c'est-à-dire des lignes, des traits, des moments où l'œil peut se poser sur un rocher, par exemple. C'est une véritable porte. Alors, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, parce que notre esprit occidental n'est pas du tout accoutumé au jardin zen, mais il y a une démarche spirituelle absolument extraordinaire et une beauté abstraite qui permet justement l'envol de l'esprit et de la contemplation.
Martine Lafont.
Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que chaque culture aussi, dans sa spiritualité, a eu une conception des jardins différente. Et c'est vrai que là, il y a une harmonie qui est recherchée, mais il y a aussi la possibilité d'une vacuité, c'est-à-dire que le fait que le jardin soit dépouillé aussi,
bien sûr,
avec des points seulement remarquables, enfin, tout du moins qu'on soit comme ça, fait qu'on va se recentrer. C'est un jardin spirituel, le jardin zen.
Bien sûr.
Il est là aussi pour retrouver des énergies.
Je sens que vous n'aimez pas beaucoup les jardins zen japonais.
Pas du tout. Mais non, enfin, on n'entend que des mots comme minimalisme, maîtrise, petit bout de cailloux, éloignement du regard, distance et tout. Mon
et
Dieu.
Vous préférez?
Ah, mais moi, j'aime plonger dans un jardin où l'herbe déborde. Dans un jardin anglais où il y a du lilas qui vous dégouline sur la tête, quoi.
Mais,
voilà.
mais l'un...
Et des glycines, et des...
L'un n'empêche pas l'autre, hein, Guillemette. Ah, l'un n'empêche pas l'autre. On peut aimer les jardins zen de temps en temps, et puis aimer aussi les jardins anglais, ou voir les jardins à la française. Enfin, moi, j'aime toutes
donc,
sortes
de jardins. Je préfère la sensualité de la nature à sa contemplation.
Valérie, pour terminer, nous dit, il n'y a pas que les jardins à la française, zen, anglais. J'ai découvert un autre champ des possibles avec la lecture de Jardin en mouvement du paysage Gilles Clément, ou encore le jardin punk du pépiniériste Éric Lenoir, d'autres visions, moins historiques, mais totalement jubilatoires. Merci beaucoup Martine Lafont, je recommande vraiment votre petit livre en format poche, hein, Cultiver son petit jardin intérieur, ces jardins qui nous font du bien, chez Flammarion. Merci beaucoup Christine Lapelle-Edouelle de
vous,
Psychologie
Aline,
Magazine. Belle journée à l'écoute de notre antenne.
Summertime, and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross and G. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm, it gets harder. Me and my girl, we got this relationship. So bad, but she treats me like shit. On lockdown like a penitentiary. She spreads her loving all over him. When she gets home, there's no left for me. Summertime, and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross and G. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Summer.